Alors bonjour à tous, merci de cette assemblée que nous avons tous ensemble aujourd'hui, merci à tous donc. Nous sommes assemblés, c'est le jour du repos du sabbat et nous allons avoir un sermon aujourd'hui sur un fait bien précis. Laisse tout ça là. Allez. Comme nous savons, ce monde aujourd'hui est sans dessus-dessous. Ce monde est sans dessus-dessous, disais-je. Et ce monde est soumis à beaucoup de souffrances et à tant de difficultés. Nous entendons souvent certaines réflexions, des réflexions comme celle-ci. Mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Et certains même pensent qu'il n'existe pas. Il y a quelque temps... quelques semaines, je dirais plutôt, nous avons écouté une discussion intéressante entre deux écrivains, l'un sur la laïcité et l'autre qui croyait en Dieu. Le premier était beaucoup plus virulent dans ses propos. C'était un philosophe et il a dit à son interlocuteur « la laïcité peut se débrouiller seule ». Mais laissez Dieu où il est, si toutefois il existe. Alors, pourquoi Dieu n'intervient-il pas, la question? Ce que beaucoup ne comprennent pas, y compris certaines religions d'ailleurs, c'est que momentanément, nous comprenons très bien que Dieu n'essaie pas de convertir ce monde. Pour l'instant, notre Créateur tolère ceux qui agissent pour faire du mal, ceux qui se plaisent dans la violence. Il l'autorise, mais il voit tout ce qui se passe sur cette planète, même ceux qui font mal aux autres. Mais il ne laissera pas ces choses définitivement comme ça, il y aura une fin, tout ça, Dieu interviendra le moment qu'il aura décidé lui-même, ça nous le savons bien sûr. Mais en attendant, il faut subir, comme on dit. Il permet de cette façon-là, comme c'est notre parcours aussi à nous, il permet à l'expérience humaine de se poursuivre jusqu'à la conclusion inévitable du résultat que nous connaissons en agissant ainsi, et que ce soit le bien, le mal, ou même les propres actions des gens, quels qu'ils soient, ou encore même celles des autres. Donc c'est par miséricorde, comme nous le savons, c'est par miséricorde que Dieu a mis un voile aujourd'hui sur les nations, tout en instituant, nous le savons également, dans ce monde, des postes d'autorité, des principes pour le respect mutuel, je pourrais dire, le respect de tous. Les êtres humains, en général, ne s'en rendent pas toujours compte, ou parfois même ceux qui sont dans la violence préfèrent récolter les conséquences de leurs erreurs, la plupart du temps c'est ainsi. Alors aujourd'hui, nous allons parler du libre arbitre, le libre arbitre spirituellement parlant, celui qui a un rapport avec l'obéissance à Dieu. Celui-ci, cet libre arbitre dont je parle, était établi tout au début. Tout au début, pour les anges. Les anges avaient aussi le libre arbitre. La création de l'homme avait cette puissance, toute cette création, aussi bien pour les anges, d'ailleurs, les anges eux-mêmes devaient avoir puissance et dignité. Mais qu'en ont-ils fait? Qu'ont-ils fait de cette puissance qu'ils pouvaient avoir, et de leur dignité? Nous allons lire dans Jude au verset 6, on peut se reporter à Jude au verset 6, il dit ceci, « Il, c'est-à-dire Dieu, a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. » Ils avaient donc une certaine dignité, ils l'ont refusée, ils ne l'ont pas gardée, mais ces anges ont abandonné leur propre demeure. Autrement dit, là encore, les anges, dans leur poste que Dieu leur avait donné, ils ont abandonné ce poste que Dieu avait prévu pour eux. Alors, qu'en est-il de tout cela? Nous allons voir ce que, comme Lucifer d'ailleurs, l'a vécu. Comme Lucifer, nous savons qu'un tiers des anges ont péché. Lucifer lui-même et un tiers de ces gens ont péché, et ils se sont donc rebellés contre Dieu en choisissant, ça la montre qu'ils ont le libre arbitre, en choisissant une autre voie que celle que Dieu avait prévue pour eux. Ils ont choisi, disons, le mal. Ils ont choisi de désobéir. Apocalypse chapitre 12, s'il vous plaît, et le verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il s'agit de ce fait, justement. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Aujourd'hui encore, jusqu'à notre époque, Satan s'est enseigné, s'est apprêté à séduire la terre, les hommes, bien entendu. Et il, Satan, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc voilà, on peut dire, voilà d'où viennent nos problèmes ici-bas. Mais remarquons ceci. Ceci nous montre qu'un chérubin, c'est-à-dire Lucifer et ses anges, qui furent créés par Dieu, avaient eux aussi le libre arbitre. Ce libre arbitre a commencé par eux. Lui et un tiers des anges ont choisi la désobéissance. C'est pourquoi ils ont une forte emprise aujourd'hui, et depuis des siècles bien entendu, sur cette terre, avec toutes les conséquences dramatiques que nous connaissons. Et plus va, plus ces conséquences dramatiques s'amplifieront certainement. Mais Dieu est le maître de toutes choses. Il sait ce qu'il va faire. La Bible nous enseigne qu'il est tout-puissant et que personne, absolument personne, ne peut limiter son pouvoir. Dans le psaume 66, auquel je vais me reporter, le verset 7. Psaume 66, le verset 7 dit ceci. Il, c'est-à-dire Dieu, domine. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. C'est ce dont nous devons être conscients. On ne peut pas dire que Dieu ne voit pas ce qui se passe lorsqu'il y a des dramatiques comme ce que nous voyons sous nos yeux aujourd'hui. Ses yeux observent les nations. Il est écrit ensuite que les rebelles ne se lèvent pas. Pour l'instant, certains rebelles s'élèvent. Ils ne connaissent pas Dieu. Nous pouvons comprendre que dans son amour, dès la création, notre Père nous a confié aux hommes plusieurs de ses pouvoirs, tout en étant bien évidemment, en quelque sorte, beaucoup plus petits. L'homme et la femme sont créateurs, ils ont la possibilité de créer, ils sont capables de créer toutes sortes d'inventions, beaucoup d'expériences sont faites par les êtres humains. Dieu est aussi les forces, la force, l'auteur et la force et des énergies. Ainsi, que toutes les lois qui existent, que ces lois soient physiques ou même spirituelles, elles exercent aujourd'hui le pouvoir sur chacun de nous. La loi de Dieu s'y force sur nous. Dans le psaume 119, à partir du verset 89, en prenant les deux versets d'ailleurs, 89 à 93. Dans ce passage, dans ce psaume, nous verrons que le psalmiste ici nous montre les multiples aspects de la parole de Dieu. Verset 89, le psaume 119. Ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. C'est important, toutes ces. De génération en génération, la fidélité de Dieu subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties, tout ce qui arrive. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Cela veut dire aussi que la loi de Dieu, ce sont des délices pour nous. Le verset 93, « Je n'oublie pas tes ordonnances, je n'oublierai jamais même tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Comprenons bien ici que ce processus du libre arbitre dont nous voudrons parler aujourd'hui commence, en ce qui concerne les êtres humains, commence à notre appel, suivi bien entendu de plusieurs étapes que nous connaissons, telles que le repentir, le baptême, la réception du Saint-Esprit. Ce dernier est évident, tout à fait indispensable pour notre croissance. En effet, l'Esprit de Dieu est indispensable pour notre salut. La personne elle-même a le choix. La personne qui est appelée, et nous en sommes des témoins, nous avons été appelés, la personne qui est appelée a donc le choix de répondre ou non à l'appel de Dieu. Elle a le choix de répondre ou non. Dieu nous donne le choix donc. Le fait qu'il faut avoir été choisi, appelé, provient de Dieu. D'abord, Jésus lui-même dit à ses disciples, dans Matthieu 22, verset 14, je ne m'y reporte pas, mais il dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Matthieu 22, 14. En quelque sorte, Dieu nous envoie une invitation. Ce n'est pas par courrier, c'est par sa parole qu'il nous a fait connaître. Il nous envoie cette invitation. L'accepter ou non est donc le choix de la personne appelée, de la personne invitée. Dieu guide, conduit, mais encore une fois, nous laisse le libre arbitre. C'est ça, le libre arbitre. Notre Père est tout à fait conscient, absolument conscient de notre capacité de prendre des décisions. Il nous a donné un cerveau, son esprit, et nous pouvons prendre des décisions. C'est lui qui nous a donné ce pouvoir. C'est lui qui est l'architecte du cerveau humain. Alors, comme il nous donne le souffle d'ailleurs, le souffle vient de Dieu, il a dû aussi nous juger dignes d'assumer nos responsabilités de choix, avec sagesse si possible, bien entendu, en choisissant, il nous permet justement, et il nous invite, en choisissant le bien et la vie. Mais cela veut dire aussi que parfois nous devons expérimenter notre choix, disons. Nous devons expérimenter et nous rendre compte parfois de nos mauvais choix et des conséquences qui résultent de ce mauvais choix. C'est ce que nous appelons aussi forger le caractère. Et oui, lorsque nous nous lançons dans un projet, que le projet échoue par exemple, parce qu'on a mal choisi, c'est tout, eh bien on apprend à mieux faire, ça forge le caractère, on se dit « il faut que je fasse de meilleurs choix, il faut que je fasse mieux la prochaine fois ». Donc cela demande un certain temps, je dirais même beaucoup de temps. Cela demande beaucoup de temps. Donc le caractère de Dieu est quand même un don qui nous permet d'acquérir. Il s'édifie, malgré tout, il s'édifie par l'obéissance à se forcer de pratiquer. Je dis le forcer parce que parfois, connaissant le bien, on aurait presque envie ou le désir de faire un tout petit peu le contraire parfois, tout en étant converti, je répète, cela peut arriver. Bon, nous avons tous des hauts, nous avons tous des bas, il y a des moments où nous faiblissons, et ça nous arrive à tous, parce que, tout simplement, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu encore. Nous sommes des êtres humains, mais nous pouvons toujours, lorsque l'on tombe, nous pouvons toujours nous relever avec Dieu. Ça arrive à beaucoup. Car nous savons que Dieu est un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Les gens, on a vu, bien souvent entendu par certains groupes, dire, les gens insistent en croyant que tout ce que Dieu nous demande, c'est « Aime le Seigneur et tu seras sauvé ». On a entendu ça, un verset biblique même. Mais faut quand même étudier un petit peu plus loin. « Aime le Seigneur, c'est très bien, et tu seras trouvé, c'est bien aussi, mais Dieu voit aussi ce qu'il faut faire. » Et ne comprenons pas dans cette question au sujet du caractère, au sujet de la patience, ces gens se bornent simplement à ce verset malgré tout important. « Crois au Seigneur et tu seras sauvé. » Mais ça ne suffit pas. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, dont choisi, Abraham et les prophètes, tous les serviteurs dans le Nouveau Testament, avaient tous le libre arbitre. Dieu les a laissés faire des erreurs. En étudiant la Bible, on s'en rend très bien compte. Ils ont fait des erreurs et à partir de ces erreurs, ont appris leurs leçons. Et oui, nous sommes responsables de nos actes, responsables de nos choix physiques parfois, mais aussi spirituels. Donc ces hommes dont je viens de parler, Abraham, les prophètes et tous ceux, les prophètes de l'Ancien Testament, tous ces prophètes ont eu des problèmes, mais ils se sont repentis de leurs erreurs. Ils se sont profondément repentis. Donc plus nous étudions leur parcours, et plus nous aurons la compréhension des actions, je dirais, qui mènent à acquérir le caractère selon les valeurs divines, mais aussi la foi, pour devenir toujours un meilleur serviteur de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 24, les versets 45 à 47. Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Dieu, en effet, par sa parole, nous nourrit spirituellement. Nous sommes un de ses serviteurs. Au verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouva faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Donc, c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Il veut un jour, en effet, nous établir sur tous ses biens. Il veut que nous réussissions. Et tout au long de la Bible, nous voyons qu'il n'a pas cessé d'établir, d'avertir et cessé d'avertir Israël bien souvent. Bon, c'est en étudiant, en voyant le parcours d'Israël et les informations que Dieu leur donnait, que l'on apprend ces choses. Ceci est également valable pour tous ceux que Dieu appelle au cours des siècles. Alors notre Créateur encourage toujours, vous le remarquerez fort bien en étudiant, nous encourage toujours, à choisir la vie. Et ceci, bien sûr, en écoutant sa voix. Il faut écouter la voix, voir ce qu'il nous a dit, et nous nous apercevrons qu'il nous demande de choisir la vie. Il nous dirige dans ce choix, si vous voulez, mais ne nous l'impose pas. C'est-à-dire en observant, en choisissant d'observer ses commandements. Le Proverbe chapitre 30, il y aura deux passages dans Proverbe chapitre 30 qui ont des petites différences, qui s'additionnent. Proverbe 30, versets 15 et 16. Proverbe chapitre 30, le verset 15. Et Dieu s'intéresse, et nous s'adresse directement à nous aujourd'hui. Il nous dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi. Alors, devant chacun d'entre nous, on peut s'adresser ça à nous-mêmes. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Pourquoi ? Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Que Dieu te bénisse. Dans ce passage, il est question de bénédiction. Mais ces bénédictions sont sujets, comme nous pouvons le voir, là, d'aimer l'Éternel, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements et ses ordonnances. Ces bénédictions sont le résultat de cette obéissance. Remarque bien que Dieu dit ici, « Je te prescris ». Je te prescris, c'est-à-dire ce terme signifie recommander. Autrement dit, je te recommande expressément de ne pas imposer ceci n'est pas imposé comme si c'était des, ce n'est pas imposé comme feront les dictateurs. Donc dans son amour, ce qui prouve là encore qu'il prend à cœur notre vie éternelle et notre entrée donc dans le royaume de Dieu, il nous conseille, autrement dit, il nous fait des recommandations, un peu comme les parents qui aiment leurs enfants et qui leur expliquent comment faire pour faire ceci, pour faire cela, et la voie à prendre. Et comme des enfants, donc, qui veulent qu'ils réussissent. Les parents veulent, évidemment, que leurs enfants réussissent dans la vie et qu'ils prennent le droit chemin. Revenons à, toujours de Deutéronome 30. C'est un autre principe qu'il y a dans Deutéronome 30, au verset 19 et 20. Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Là encore, on prend. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Alors là, il y a des témoins. Le ciel au-dessus de notre tête et la terre sous nos pieds. Et vous comprenez bien qu'on est pris en sandwich entre les deux. Donc, ce sont des témoins. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mais il dit encore, choisis la vie. Il ne l'impose pas. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc ce sont là des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, qui devaient entrer dans un pays, mais c'était un pays physique, vous le savez très bien, et notre but aujourd'hui, le pays que nous attendons, c'est le royaume de Dieu. Donc pour ceux qui refusent d'obéir, pour ceux qui ne sont pas disposés, je pourrais dire, à obéir, leur sort est décrit, je ne reviendrai pas dessus, mais leur sort est décrit au verset 17 et 18. À l'exemple d'Israël, par exemple, où nous savons que la première génération d'Israël n'est pas entrée dans la terre promise, parce qu'ils n'ont pas agi convenablement. La terre, cette terre qui préfigure ici, encore une fois, le royaume de Dieu. Donc Dieu a donc décrété que chaque personne puisse faire son choix. Nous sommes libres de faire notre choix. Il ne nous oblige pas à lui obéir, mais il nous conseille. C'est très important. Nous pouvons très bien voir au fil de ces versets et de la Bible en général que Dieu nous conseille, conseille son peuple, ceux qui veulent qu'il vive. Donc grâce à lui, nous pouvons une chose. Grâce à lui, nous sommes libres, comme on vient de le voir, de choisir la liberté. Ceci grâce à ses lois, à la vie éternelle, par l'intermédiaire de notre médiateur. Ou alors, de choisir la captivité, la mort, pour ainsi dire, selon le pouvoir de Satan, le diable, au lieu de nous obliger à faire sa volonté, nous le remarquons très bien, Dieu a toujours donné des précisions sur la meilleure façon de nous conduire. Et ces meilleures façons, ben, il nous dirige dans ces façons en nous indiquant la voie à suivre. Prenons Ésaïe, chapitre 48, les versets 17 et 18. Ésaïe, chapitre 48, au verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la vie, dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ayons foi en cette promesse, ton bonheur serait comme un fleuve. On dit parfois dans le slogan que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Ça peut être vrai, mais elle peut être un fleuve avec Dieu, un fleuve de bonheur. Donc, ayons foi justement aux promesses divines ici. Nos réussites, et nos échecs ne sont pas déterminés à l'avance. Certains disent « Oh ben, ça devait être comme ça. » C'est pas de ma faute, ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça en fonction du choix que nous choisissons, que nous avons pris, oui. Certains pensent que notre destin est déterminé à l'avance, comme beaucoup le croient d'ailleurs. Mais pour réussir ce que nous entreprenons, encore une fois, que ce soit physique ou même spirituel, il nous faut faire des efforts. Faire des efforts et surtout avoir confiance à Dieu. Avoir foi en ce qu'il nous dit dans sa parole. Avoir foi à sa parole proprement dite. Et sa parole, nous le savons, est la vérité. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, bien que le Tout-Puissant, aujourd'hui encore, soit toujours impliqué dans sa création, c'est ce que je disais au début de ce sujet, Dieu voit tout ce qui se passe dans sa création. Il voit aussi bien la pollution que nous faisons les uns les autres, mais il voit aussi la violence qui s'accroît sur la terre entière. Il est toujours impliqué dans sa création, il n'intervient pas. Pour le moment, il limite son implication, pourrait-on dire, parce qu'il permet encore une fois à l'humanité d'apprendre ses leçons à travers les erreurs que nous commettons, que le monde commet d'ailleurs. C'est un peu comme des enfants, là encore, qui parfois, on a souvent entendu déjà ça, comme des enfants, vous savez, qu'on leur dit « Oh, faut pas toucher le poêle, c'est chaud ». Mais ces enfants, on leur dit la parole, mais ils veulent voir si c'est vrai. Alors ils touchent le poêle et ils se brûlent. Et oui. Eh bien, nous-mêmes, en tant qu'adultes, c'est comme ça. Nous apprenons nos leçons à travers des expériences. L'expérience est de toucher le poêle pour l'enfant, et la souffrance, c'est parce que ça l'a brûlé. Donc c'est un petit peu, en minimisant un peu le poêle, là, si vous voulez, c'est un peu l'expérience humaine qui apprend, sans écouter les directions qu'on pourrait suivre, qui apprend différemment parce qu'elle veut voir comment ça se passe. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde comment ça se passe. C'est un peu, encore une fois, nous sommes toujours un peu des enfants. Nous allons prendre un passage bien connu, qui révèle nos responsabilités individuelles. Donc, dans son amour, Dieu, comme on l'a vu, nous conseille sans cesse. Il nous conduit au repentir à partir du moment où nous nous laissons guider. Ézéchiel 33. Ézéchiel, le chapitre 33, à partir du verset 11. Ézéchiel 33, le verset 11. Alors Dieu inspire Ézéchiel. Dieu parle à Ézéchiel et lui dit, « Dis-leur, Ézéchiel, tout le monde dit, parle pour moi. » Au verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. » Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il apprenne la voie à suivre. Ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. « Revenez, revenez de votre mauvaise voie, dit-il. » « Mais pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, vous qui allez tout de travers ?» Sans nous en rendre compte, vraiment, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, tout en étant convertis, nous risquons de prendre aussi des décisions qui ne sont pas toujours conformes aux yeux de Dieu. Au verset 12 maintenant, toujours d'Ézéchiel 33, « Et toi, Fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas. » Si je m'arrête là, on dit, ah ben c'est pas juste. Mais je poursuis. La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Il a été juste jusqu'à présent, puis maintenant il commence à faire des transgressions. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. » Ça se comprend très bien. Verset 13. « Alors je dis au juste qu'il vivra, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice d'avant, autrement dit, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent dans la justice, sera oublié. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant qu'il mourra, mais s'il revient de son péché, et s'il pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a volé, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis à l'avance donc, seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, alors il vivra. » Donc cela nous laisse comprendre que celui qui est converti, qui suit une voie droite, et puis d'un seul coup il se met à dévier, il s'en va de travers, qu'il ne coûte pas ce que Dieu dit, là, ça, c'est dangereux. Alors le contraire, c'est avec le méchant, qui a toujours fait des méfaits, mais il apprend Dieu, et puis voilà, qu'il se met à suivre la voie droite, et il poursuit dans cette voie. Donc ses méfaits seront oubliés. Donc l'Éternel ici nous prouve son amour, qu'il tient compte de notre parcours, de notre vrai repentir, en nous confirmant. Dieu, par son amour, nous confirme ce que lui-même désire pour nous. Ézéchiel chapitre 18 et le verset 32. Ézéchiel 18, le verset 32. Voilà le désir de Dieu, au verset 32. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » Je ne désire pas la mort de celui qui se dirige vers la mort, si vous voulez, dit le Seigneur l'Éternel. Mais il dit, convertissez-vous donc et vivez. À partir de là, convertissez-vous et vivez. Nous voyons, le libre arbitre est un précieux cadeau de Dieu. Le libre arbitre est un précieux cadeau de Dieu. D'une part, on peut apprendre nos erreurs, mais si nous revenons, on voit très bien la réussite. Sans lui, sans Dieu, sans ce cadeau qu'est le libre arbitre, il ne nous serait pas possible de faire le bon choix. Un choix judicieux, il ne nous serait pas possible non plus de progresser sur la bonne voie. Je me souviens avoir déjà donné un sermon sur nos priorités. C'est un petit peu ça finalement, sur nos priorités, en citant ce que Jésus dit à Marie. Il avait dit à Marie qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est dans Luc 10, 42. Je ne m'y reporte pas, mais Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, cette part ne lui sera jamais ôtée. Donc à son appel, à l'appel de Dieu, nous avons choisi de le suivre. Ensuite, grâce à l'Esprit de Dieu, il nous permet de cette façon-là de l'aimer, de le comprendre, de l'aimer de tout notre cœur, et petit à petit, il nous affermit dans la vérité. La vérité qui est d'ailleurs appelée, là encore, une loi de liberté. La vraie liberté, nous pouvons facilement le comprendre, elle est régie par des lois. De même qu'un enfant, je reviens souvent à l'enfant, de même que l'enfant a besoin d'apprendre à marcher, a besoin d'apprendre à parler, il doit faire confiance à papa et à maman, de même nous aussi, nous avons besoin d'apprendre et de respecter les lois, les véritables lois qui régissent cette liberté. Cela, sans cela, je dirais plutôt, nous serions encore sous la conduite du péché. Alors réfléchissons un peu, tout en nous laissant le libre arbitre, Dieu nous recommande, par exemple, il nous laisse le libre arbitre en toutes choses, mais il nous commande d'honorer nos parents. de ne pas tuer. Je vais citer quelques commandements. De ne pas commettre l'adultère. Il nous recommande de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas convoiter, d'avoir un seul Dieu. Bon, mais ne pas commettre tous ces actes-là rend, on peut très bien s'en rendre compte, rend notre conscience tranquille et nos foyers beaucoup plus heureux. Malheureusement, quand on regarde ce pauvre monde, c'est pas du tout cela. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas heureux, malgré tout. Je suis sûr qu'il y a des familles, malgré tout, heureuses. Mais à combien de problèmes? C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, juste un simple petit verset, 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 4, la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 4 et le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Même celles qui se font en secret, nous devons les rejeter. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Les hommes qui nous instruisent, nous nous recommandons à eux devant Dieu. Parce que c'est Dieu, par la bouche de ses serviteurs, qui nous instruit. Bon, la recommandation d'aimer Dieu et notre prochain apporte, on l'a vu, la paix de l'esprit. Allons voir cela dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22. Nous lisons. Mettez en pratique la parole. Oh, ce sont des passages bien connus. Je n'ai pas l'intention d'inventer quelque chose. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ce faux raisonnement, des fois, qui attire mon attention. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, c'est-à-dire tel qu'il est naturellement, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Sur le plan physique, matériel, si on se regarde sur le visage ou quoi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va l'effacer, on va s'arranger à être mieux. Spirituellement parlant, c'est pareil. Si la parole de Dieu est un miroir pour nous, qu'elle nous montre ce qu'il faut faire et qu'on ne le fait pas, alors cela nous permet de redresser la barre. Nous écoutons, mais si nous ne sommes pas sur nos gardes, si nous n'étudions pas suffisamment, ou ne révisons pas parfois, nous pouvons facilement devenir des auditeurs oublieux. Voyons le verset 25, toujours de Jacques chapitre 1, le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Là encore, Jacques chapitre 12. Jacques chapitre 2, le verset 12. Autant pour moi. Jacques chapitre 2, le verset 12. Voilà ce qu'il nous faut faire, parler et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Ici, quand on lit une loi de liberté, ici, ce n'est pas la liberté vécue dans ce monde actuel, celle-ci qui donne licence à la débauche, ce n'est pas ça dont je parle, mais dans sa grande miséricorde, par les Écritures, Dieu nous enseigne, sans toutefois, je le répète encore, sans toutefois nous imposer sa volonté. Il a mis le choix devant nous, et de ce choix dépend notre vie et notre bonheur. Quelques exemples ici, juste avant sa mort, par exemple, le Christ a ressenti de très fort il avait de très forts sentiments envers les habitants de Jérusalem. Dans Luc chapitre 13, verset 34. Luc chapitre 13, verset 34. Il y a des passages où le Christ a pleuré en voyant Jérusalem. Luc 13, 34, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Là encore, c'est refuser l'appel, refuser le Christ. Cela nous prouve encore une fois que pour agir, il faut le vouloir, il faut le désirer. Nous devons désirer agir. Dans Jean chapitre 5, le Christ, ici, dans ce passage, répond là encore à ceux qui lui posaient certaines questions. Et il leur dit ceci dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Jean, le chapitre 5, verset 39. Et en s'adressant à eux et à nous tous, il dit « Vous sondez les Écritures. » Jean 5, 39. « Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Mais il ne s'agit pas que de le penser. Le penser, c'est très bien. Mais il faut agir. Je reprends. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les Écritures sont la parole de Dieu, et ces Écritures rendent témoignage de moi, dit-il. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Comment comprendre ça? Les Écritures, c'est la parole de Dieu, vous les sondez pour avoir la vie, mais on refuse celui qui parle. On refuse celui qui est là, qui témoigne. Donc seul Dieu connaît qui ne répond pas à l'appel. Mais il est certain que Christ doit prononcer également ces mêmes paroles aujourd'hui. Il y a encore, de nos jours, certainement plus d'appelés que ceux qui se tournent véritablement vers lui, que ceux qui répondent à l'appel. Tout est régi par des lois. Notre existence, il est évident que cette existence que nous menons ne fait pas exception à la règle. Alors plus nous vieillissons, et on s'en aperçoit bien, plus nous vieillissons et plus nous comprenons que nous avons toujours besoin de progresser. Il ne faut pas croire que nous savons tout. Nous avons toujours besoin de mieux comprendre, de mieux connaître le Christ. Nous avons toujours besoin de progresser en conduite, en caractère, ainsi qu'en suivant les conseils, les avertissements que constamment notre Créateur nous procure, nous donne. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, n'a cessé de donner des avertissements tout au long de sa vie, même peu avant de mourir. Il donnait encore des avertissements. Le Christ lui avait dit la façon dont il mourrait. Donc il le sait. Et il avertit les gens. 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 12 à 15. Pierre dit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Regardez après. « Bien que vous les connaissiez. » Même, vous savez, dans beaucoup de sermons, on pourrait très dire ce que l'on en... Ben, on le sait, on le connaît. Oui, on le connaît, mais moi je suis bien content parfois qu'on me le rappelle. Je suis bien content qu'on me le rappelle. Je reprends ce verset 12. « Voilà pourquoi, dit Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Ils sont affermis dans cette vérité, mais ils le rappellent, les choses principales. Au verset 13, il dit « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je l'acquitterai, cette tente, donc, ce corps dans lequel il habite, car je sais que je l'acquitterai, cette tente, subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, au moins qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Voilà pourquoi, on pourra plutôt se poser la question, pourquoi ? Tout simplement parce que Pierre et les autres apôtres, bien entendu, mais Pierre ici, il savait que Dieu a accordé à l'homme le libre arbitre. Et nous pourrions très bien décrocher si nous ne sommes pas attachés à Christ. Il y a des passages qui nous montrent qu'il faut être attaché. Donc il ne s'agit pas de se laisser décrocher, mais de rester attaché, je dirais. Donc, poursuivre la voie divine. Ça, c'est le but. Ce but est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. 2 Pierre, encore 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 à 8. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen, remarquons bien, cette puissance nous a donné au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au verset 4, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, on faut voir le comment, en fuyant la corruption. La corruption qui existe dans ce monde, des fois bien sans ce monde, on a affaire à parler à des gens qui parlent grossièrement, ça fait mal, ça fait mal comme ça, tout ça. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, au verset 5, faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses, tout ce dont nous venons de lire ensemble, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est marqué la connaissance. Il faut nous efforcer à bien connaître le Christ. Le Christ que Dieu le Père a sacrifié pour mes péchés, nos propres péchés, pour les péchés de toute l'humanité. Essayons de mieux connaître le Christ. Tout au long de sa vie, Christ a montré comment utiliser notre libre arbitre. Car lui aussi devait également, par ses actions, prouver qu'il deviendrait, rappelez-vous, notre grand souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, j'aime bien me référer à cela. Hébreux chapitre 4 et le verset 15, nous lisons, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Il sait ce qu'est la faiblesse. Il était fort avec Dieu le Père, mais c'était un homme qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il, le Christ, a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, parce qu'il était proche, disons, attaché au Père. À Jérusalem, alors qu'il, le Christ, était encore enfant, rappelons-nous, il a délibérément choisi de s'occuper des affaires de son Père, et ceci pendant tout son ministère. Quand on lui posait une question, il a dit « Il faut d'abord que je m'occupe des affaires de mon Père. » Hébreux chapitre 5, et le verset 7 et 8. Hébreux 5, verset 7. C'est lui, le Christ donc, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais nous en sommes là aussi, on ne souffre pas encore comme le Christ, bien entendu, mais on devra s'attacher à celui qui peut nous sauver de la mort. et il a été exaucé à cause de sa piété. Mais c'était le Fils de Dieu. Rappelons-nous que Dieu ne fait pas exception de personne. Son Fils est passé par ses souffrances. Et il a appris au verset 8, « Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Le Christ, en tant qu'être humain, a connu cette façon d'apprendre malgré qu'il lui n'a jamais péché. Au jardin de Gethsémané, il a choisi là encore de souffrir en disant à Dieu, à son Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, à ce moment-là, dans cette attitude, un ange est arrivé du ciel pour le soutenir, pour le fortifier, disons-nous. Mais sur la croix, là encore, il a choisi d'aimer ses ennemis. Et il a fait une prière à cet égard, et il les a pardonnés, pour ainsi dire. Il leur dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et oui, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de crucifier leur Créateur. N'oublions pas qu'il est notre exemple, toujours en toutes choses. Dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre le chapitre 2, le verset 22 à 25, 1 Pierre 2, chapitre, la première épître de Pierre, oui, au chapitre 2, le verset 22. Lui qui n'a point commis, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Là encore, nous pouvons, vous et moi, prendre des exemples sur cette attitude. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Avant notre appel, nous étions en effet certainement des brebis errantes. Si ce n'est pas le cas pour la deuxième génération de ceux qui ont été appelés avant, bien entendu, ils doivent, cette deuxième génération doit aussi faire, malgré tout, face au libre arbitre. Nous devons faire tous face au libre arbitre. Dans le passé, nous avions également, je me souviens, nous avions parfois cette question à propos des êtres humains qui, eux, vivront dans le millénium. Qu'en sera-t-il donc pour eux? Ce sera exactement pareil, devrais-je dire. Ce sera pareil puisque Dieu nous dit que nous devons choisir la vie, sous-entendu la vie éternelle. Mais, il ne contraint personne à suivre cette voie, il nous indique de suivre cette voie. Le choix reste le même pour chaque époque du plan divin et pour chaque individu. À mesure que nous apprenons à choisir la voie divine tout au long de notre vie, cela nous permet de croître selon le caractère divin, puisque Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous devons en quelque sorte progresser dans notre attitude, dans cette croissance de notre caractère. Nous sommes des êtres humains et parfois il nous faut prendre l'exemple du Christ, bien entendu, à chaque fois que nous en avons la possibilité. Dieu, encore une fois, ne désire pas du tout nous façonner à des créatures semblables à des robots. Il veut que ses enfants vivent selon sa voie, parce que ses enfants ont répondu de plein gré à son appel et parce qu'ils veulent faire sa volonté en faisant appel à lui, même dans leur faiblesse. Nous devons reconnaître notre faiblesse parce que nous avons besoin de Dieu et dans certains cas, il nous faut toujours être proche de Christ pour lui parler et nous venir soutenir. Dieu accordera réellement le libre arbitre également sous le règne du Christ, afin que tous ceux qui vivront pendant cette période donc de 1000 ans soient en mesure de croître, et cela selon le caractère de Dieu. Ils veulent le calquer, Dieu veut que nous soyons calqués selon son caractère. Donc la grande différence, s'il y en a une bien sûr, entre le monde aujourd'hui et le royaume de Dieu, c'est qu'il n'y aura plus de confusion religieuse à ce moment-là. Tous connaîtront Dieu et ses voies. Et cela sera évidemment bien plus facile, parce que Lucifer, qui est sur la terre, vous savez, est devenu Satan, qui séduit le monde actuel, sera réduit à l'impuissance pendant cette période, donc, de 1000 ans. Mais alors, tous ceux qui auront compris ce libre arbitre était essentiel à leur salut, à notre salut à tous, ceux qui ont choisi la vie, comme nous l'avons lu dans Deutéronome chapitre 30, il y a quelques instants, recevront donc la vie éternelle. Reportons-nous à Apocalypse, le chapitre 22, et les versets 12 à 14. Apocalypse 22, verset 12, où il dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Il y a beaucoup du repentir, les questions là-dedans. « À chacun ce qu'est son œuvre. » « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire ceux qui se purifient au cours de leur vie, ceux qui comprennent qu'il nous faut croître pour mieux ressembler à Dieu, à Christ tout au moins, ceux qui se purifient au cours de leur vie, afin d'avoir droit, comme il est écrit, à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. » Heureux donc, c'est ce que dit le verset 14, heureux donc maintenant ceux qui répondent à l'appel en décidant de leur plein gré pour que Christ, par son esprit, guide notre cœur et la conduite à suivre. Quand Dieu offre à une personne l'occasion de le servir, de suivre ses voies, de toute façon, ce Dieu laisse la personne choisir. Je répète souvent, c'était le but de ce sujet. Dieu laisse la personne choisir tout en étant toujours là pour aider dans la direction à suivre et pour l'aider à persévérer jusqu'à la fin. Donc tous ceux qui persévéreront seront réellement, à ce moment-là, les appelés, les fidèles et les élus, c'est-à-dire le vrai peuple de Dieu qui vivra dans son royaume. Dans 2 Pierre chapitre 1, pour terminer, 2 Pierre chapitre 1, les versets 10 et 11. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.